Avec Juan Gomez.
Bonne journée, Xavier Besson, au prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
RFI à l'heure américaine, journée spéciale à l'occasion des 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump. Dans 30 minutes, Caroline Paré s'intéressera aux conséquences du retour de Trump pour la santé mondiale, avec notamment le démantèlement de l'USAID. Parmi les autres grands rendez-vous de la journée, n'oubliez pas, 14h10 temps universel, c'est pas du vent, avec Igor Strauss. Accent d'Europe à 17h10 temps universel, l'impact de Trump sur la défense européenne. Et ne ratez surtout pas l'édition spéciale à 18h10 temps universel. Quelle place pour l'Afrique dans cette ère de rupture, avec de très nombreux invités autour de Romain Auzui. Les 100 premiers jours de Trump, c'est à suivre également sur nos réseaux sociaux et sur le site RFI.fr. Quant à nous, jusqu'à 9h temps universel, eh bien, on répond à vos questions et on vous écoute, car vous dressez ce matin le bilan de ces 3 premiers mois de Trump à la Maison Blanche, avec à mes côtés nos invités Romuald Sciorra, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous êtes franco-américain, vous vivez aux États-Unis, autant vous dire que votre expertise, votre analyse nous intéresse plus que jamais. Jérémy Guez, toujours avec nous, professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC. Tous les deux, vous publiez des ouvrages que je renvoie aux auditeurs à lire, évidemment. Romuald Sciorra, L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence, c'est chez Armand Collin. Et Jérémy Guez, États-Unis, déclin improbable, rebond impossible aux éditions VA. On a beaucoup parlé de politique intérieure durant la première partie. Des questions maintenant concernant la politique étrangère du président Trump. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes à Dakar au Sénégal. Vous souhaitez-vous nous parler du rapprochement Trump-Poutine ?
Absolument. Moi, j'ai le sentiment que depuis que Trump est arrivé au pouvoir, les États-Unis ont radicalement changé d'attitude vis-à-vis de Kiev. Et que Trump, notamment, laisse Poutine faire ce qu'il veut dans cette affaire-là. Et on a l'impression que l'Ukraine est en train d'être sacrifiée. La question que je... d'ailleurs, la preuve, c'est que Poutine fait très peu preuve de volonté pour tout ce qui est de recherche de la paix. Et la question que je voudrais poser est celle-là. Est-ce que Trump pourra mettre assez de pression pour amener Poutine à respecter la mini-trêve qu'il a décidé lui-même pour les 8 pour la période du 8 au 11 mai prochain.
Effectivement, l'annonce qu'a fait le président Poutine à l'occasion des 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Romuald Sciorra, Alpha dit avoir l'impression que Poutine et Trump sont en train de sacrifier l'Ukraine. On a tous évidemment encore en mémoire cette scène surréaliste au bureau ovale, Trump, Zelensky, Trump sermonnant son homologue ukrainien, mais en même temps, deux jours plus tard, il engueule, permettez-moi l'expression, Poutine, en disant « j'ai l'impression qu'il me mène en bateau, qu'il me balade ». On a du mal à voir concrètement quelle est la position de Trump sur ce dossier.
Oui, elle est quand même assez claire, selon moi. Parfois, il critique Poutine, mais c'est quand même assez soft, hein, connaissant Donald Trump. Il n'y a aucune insulte, aucune vraiment menace sérieuse. Donald Trump ne peut pas sentir Zelensky depuis bien longtemps. Il avait fait la promesse durant sa campagne de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, mais ça c'était un bon mot.
Personne n'y croyait.
Non, lui non plus, mais c'est une façon de parler. Hein. S'il arrive à mettre fin à la guerre d'ici le mois de juin, ça sera quand même un succès pour lui. Mais évidemment, sur le dos de la pauvre Ukraine, et croyez-moi, je suis à moitié ukrainien par ma mère, donc j'en pleure chaque jour qui passe, mais voyons les choses telles qu'elles sont. Joe Biden n'a pas non plus vraiment aidé à la situation lorsqu'on connaissait la situation justement sur le terrain de l'Ukraine. Il aurait fallu traiter à un autre moment lorsque l'Ukraine était en position favorable. Néanmoins, pour répondre à la question de votre auditeur, oui, Donald Trump, selon moi, devrait réussir à obtenir un véritable cessez-le-feu. De toute façon, Poutine est en train de gagner quasiment tout ce qu'il voulait, puisque malheureusement, il ne peut pas, pour lui, envahir l'intégralité de l'Ukraine, Donbass, Crimée, etc. Et l'armée russe est quand même également à bout de souffle.
Ouais, il fera suffisamment pression sur Poutine, selon vous, Jérémy Guez ?
En tous les cas, c'est difficile de le faire parce qu'on ne sait jamais ce que Vladimir Poutine va vraiment faire à la fin. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et vous faire part d'un petit doute. Cette séquence au Vatican m'a fait douter.
Samedi dernier, au moment en marge des funérailles du pape François.
Ça a été largement orchestré par l'Ukraine et par le président Zelensky, mais il m'est impossible de croire que Donald Trump, l'expert de la télé-réalité, l'expert des concours de beauté, n'ait pas mesuré l'impact que cette image aurait. Et effectivement, ça fait depuis longtemps que les États-Unis ont un regard un peu trop détaché de l'Ukraine. Il y avait même Barack Obama avant ça sur la Crimée, et ça n'a pas engagé beaucoup de choses. Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, les États-Unis doutent énormément, aimeraient que l'Europe en fasse beaucoup plus et seraient, à mon avis, plus ouverts de soutenir l'Europe que ce que ces gros titres laissent penser.
Les États-Unis, permettez-moi, et on va passer à d'autres dossiers avec d'autres auditeurs qui patientent au standard, doutent énormément concernant le dossier ukrainien. La preuve, c'est que Marco Rubio, qui est quand même le secrétaire d'État, a dit il y a quelques jours que le président Trump allait décider très prochainement s'il allait poursuivre ou pas.
C'est un peu aussi des menaces à l'encontre de Vladimir Poutine. Hein. C'est des menaces soft. Poutine a besoin d'un partenariat avec les Américains. Il a besoin de voir la levée de plusieurs sanctions. Il a besoin de Trump. Donc ça, ce sont des menaces et pour moi, du théâtre à... Pour l'intention de Poutine. Juste en un mot, oui, Jérémy a tout à fait raison avec la séquence au Vatican, mais n'oubliez pas non plus la séquence à Notre-Dame. Hein. À l'époque déjà, des commentateurs disaient « Ah, mais il y a eu un rapprochement Zelensky-Trump ». Donc je ne me fierais pas trop à ce moment auquel nous avons assisté.
Au moment de l'inauguration de Notre-Dame, les deux hommes s'étaient retrouvés.
J'espère me tromper pour l'Ukraine.
Aux côtés d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On repasse au standard, si vous permettez. Je sais que chaque question mériterait des explications d'une trentaine de minutes, mais malheureusement, on est pris par le temps. Marius, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Wang, et bonjour à tous vos invités.
Et ils vous écoutent, nos invités. Allez-y.
Alors, ma préoccupation est de savoir pourquoi Donald Trump veut transformer la bande de Gaza plutôt que de chercher des solutions pour un accord de paix avec Israël.
Alors, il veut transformer la bande de Gaza en Riviera du Moyen-Orient. Qui veut répondre ? Qui des deux, Romuald ? Allez-y, Jérémy Guez, vous avez levé la main.
Alors, pourquoi ? La réponse peut choquer, mais vous regardez la bande de Gaza avec l'œil d'un promoteur immobilier et vous vous dites, il n'y a aucune raison que ce bout de territoire connaisse finalement le destin qu'il a connu jusqu'à maintenant. Il y a une large accès à la mer Méditerranée, il y a donc du potentiel économique, il y a du potentiel touristique et donc, vous me posez la question de pourquoi, je vous dirai, voilà la logique, même si elle peut impressionner. Maintenant, là aussi, ne nous arrêtons pas aux outrances et aux extravagances. Je pense que Donald Trump pense peut-être même à raison que l'une de ses plus grandes réussites de son premier mandat, c'était les accords d'Abraham. Et je pense aussi qu'il a été arrêté en plein vol, ou qu'il croit avoir été arrêté en plein vol, que toutes ces nouvelles assez obscures...
Les accords d'Abraham, excusez-moi, pour rappel, rétablissement de relations avec certains pays
avec
arabes.
Avec certains pays arabes, effectivement. Il manque un état clé dans ce dispositif, c'est l'Arabie Saoudite. Et je pense que là, on pourrait rentrer sur un chemin autrement plus optimiste que ce que ces derniers mois, absolument dramatiques, nous ont montré.
Avez-vous la même analyse, Romuald, sur...
Tout à fait.
Tout à fait. Bon, on repasse au standard, on gagne du temps, c'est bien. 10h48 à Paris, on a 12 minutes encore devant nous. Bonjour Adamou.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
À Douala au Cameroun, vous avez des questions sur les projets d'annexion du président Trump?
Oui, nous avons des questions sur le projet d'annexion de Trump en ce qui concerne le Canada et le Groenland. Donc, en voulant annexer le Canada et le Groenland au mépris des droits internationaux, Donald Trump peut-il utiliser les pressions militaires pour y parvenir ? Quels sont ses sens d'y parvenir ?
Alors, les pressions militaires, en tout cas, il n'exclut pas, concernant le Groenland, de lancer une opération militaire. C'est ce qu'il a dit. Mais vous allez encore me dire, Romuald Sura, tout ça, c'est du théâtre.
Non, c'est pas du théâtre.
Pour une fois.
Vous voyez, je veux vous contrarier. Non, voyons les choses telles qu'elles sont. La politique étrangère de cette administration peut se résumer en une phrase. Mettre à bas ce qu'il demeure du système multilatéral instauré en 1945. Lorsque Trump a menacé d'annexer le Groenland par la force, il a porté un coup fatal à l'esprit de l'OTAN et au multilatéralisme dans son entièreté. Comme vous le savez, si un pays de l'OTAN est attaqué, l'entièreté de ses autres pays, des autres pays de l'Alliance, doit venir au secours donc du pays attaqué. Imaginons que Trump, demain, attaque le Groenland, donc tout l'ensemble de l'OTAN devrait entrer en guerre contre les États-Unis. Bref, il nous a fait entrer dans une autre dimension. Non, il y a toujours évidemment un peu de bluff, mais rien qu'en parlant d'une annexion par la force du Groenland, il nous a fait entrer dans une autre dimension, et ça, il le savait. Les personnes qui l'entourent le savent, et c'était l'objectif. Maintenant, irait-il jusqu'au bout ? Concernant le Groenland, je suis beaucoup plus réservé, car le Groenland fait partie quand même de l'Union Européenne.
Les oui, choses, c'est un territoire danois.
Voilà, il pourrait y avoir, même économiquement, les choses sont un peu plus compliquées. Mmh. Pour ce qui est du Canada, et même s'il n'y a pas eu de menace d'annexion par la force, mais plutôt des menaces d'annexion via une asphyxie économique du pays, afin de voir certaines provinces...
Donc c'est plus une guerre économique qu'une guerre militaire avec le Canada.
Pour l'instant, l'objectif pour l'instant, asphyxier le Canada économiquement, avoir certaines provinces qui seraient tentées de rejoindre les États-Unis, et à ce moment-là, éventuellement, voler au secours de ces provinces qui seraient sous le joug de la tyrannie d'Ottawa. Mais une intervention militaire au Canada n'est pas quelque chose d'impossible. Si le Canada, croyez-moi, je suis au Canada tous les deux mois, je suis membre associé de l'Université du Québec et on suit ça vraiment très près. Si demain le Canada était attaqué par les États-Unis, personne ne viendrait secourir ce pays.
Lundi, les Canadiens étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau Premier ministre. Le jour même, le jour du vote, Trump s'immisce dans la vie politique canadienne en appelant les Canadiens à voter pour lui. Jérémy Guez.
C'est la marque de fabrique de Donald Trump, c'est-à-dire cette idée de faire des demandes outrancières, extravagantes, et de se dire, en fait, tout ça, il l'avait écrit dans un livre qui s'appelle The Art of the Deal. Cette idée, c'est une approche pour essayer de mieux identifier les lignes rouges de son interlocuteur et d'essayer de d'attraper tout ce qui reste sur la table. Dans le cas du Canada, ça a montré ses limites, parce qu'effectivement, les Canadiens ont choisi un homme, un technocrate, à un moment idéologisé, je veux dire, c'est quand même important de le souligner, un économétricien qui revendique cette part d'économétrie dans son approche. Donc effectivement, c'est la marque de fabrique de Donald Trump qui a montré ses limites au Canada.
Ouais. On me dit que la ligne avec Ali n'est pas très bonne, mais je trouve sa question intéressante, donc je voudrais qu'il la pose lui-même. Allez-y, bonjour Ali.
Bonjour, M. Gomez.
Alors, on vous entend.
Bonjour à toute l'équipe RFI et merci pour votre travail.
Ben, c'est normal. Quelle est votre question ?
Je suis un nouvel auditeur et...
D'accord.
Je vous salue chaleureusement.
Eh bien, oui. Nous aussi, on vous salue. Allez-y, car la liaison téléphone n'est pas très bonne. Allez droit au but, Ali.
Oui, merci de me donner la parole. C'est ma première intervention à l'antenne.
Oui, très bien. Alors, quelle est votre question, décidément ?
Ma question, aujourd'hui, qui sont concrètement les pays alliés à Donald Trump ?
Ah, qui sont concrètement aujourd'hui les pays alliés à Donald Trump ? Ah, je trouvais la question intéressante. Romuald Seurat, vous réfléchissez là, très vite ?
Non, j'ai pas besoin de réfléchir.
D'accord.
Les alliés traditionnels des États-Unis sont toujours les alliés des États-Unis. Les pays de l'OTAN, le Canada, etc. Mais ce qui est certain, c'est que les liens se sont desserrés avec les alliés traditionnels des États-Unis, que pour ce qui est du Canada, le pays protecteur devient le prédateur potentiel, et que Trump, de toute façon, veut nous faire basculer dans un nouvel ordre international qui ressemblerait plus à celui du 19e siècle, où les relations ne seraient plus multilatérales, mais plutôt dans le bilatéral, et donc aller vers des alliances de circonstances, un petit peu ce que l'on a vu lors d'un vote récemment à l'ONU, où pour quand même la première fois de l'histoire de l'ONU, les États-Unis ont voté avec la Russie, avec l'Iran et avec la Corée du Nord, contre la France et la Grande-Bretagne.
Jérémy Guez, vous levez les yeux au ciel.
Oui, non, c'est dire la transformation et la mini-révolution qu'on a pu connaître. Effectivement, les liens bilatéraux sont extrêmement importants pour Donald Trump. C'est peut-être là où il cherche ses alliances, et justement pour répondre à l'auditeur, les alliés. Un autre exemple, ça nous vient de Rome et de Giorgia Meloni, qui est tentée aujourd'hui d'entrer dans cette relation bilatérale. Alors, les plus optimistes vous diront c'est un pont entre les Européens et les Américains. Mmh. Les plus pessimistes disent que n'importe quel pays européen aujourd'hui qui essaye de rentrer dans une relation bilatérale risque de se prendre un mur extrêmement violent.
Enfin, il se met quand même à menacer ses propres alliés.
Mais oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, y a quand même des fissures. Écoutez, vous parliez de Mark Carney, le nouveau Premier ministre canadien. Voilà un chef de gouvernement lucide, et Dieu sait qu'on en manque dans nos démocraties occidentales. Il a été très clair il y a deux jours lors d'un discours. Il a dit... Le monde que nous avons connu n'existe pas et ne reviendra pas. Les relations des États-Unis avec le Canada et ses alliés ne seront plus jamais les mêmes.
Il nous reste 6 minutes. Autre question au standard. Bonjour Christian.
Bonjour Juan Gomez, bonjour aux invités et bonjour à tous.
À Bukavu en République démocratique du Congo, pardon. Quelle est votre question ?
Oui, merci bien. C'est à Bukavu exactement. Et qu'est-ce qui a motivé la décision de Donald Trump de démanteler l'ICAID et quelles sont les conséquences pour le continent africain face au retrait américain en matière d'aide au développement?
L'USAID, l'agence américaine d'aide au développement que Trump a donc décidé de démanteler, 83%, c'est bien ça, des aides ont été supprimées, Romuald Sura.
Et pour répondre à la question de notre auditeur, deux choses ont motivé. Il souhaitait faire des coupes budgétaires et surtout des coupes qui semblaient significatives à l'opinion pour l'opinion américaine. Et celle-ci a été un coup d'éclat, un coup de maître à l'encontre, enfin plutôt pour son électorat de base. Cela plaît à la nation MAGA. Maintenant, pour la deuxième partie de la question de votre auditeur, ça va être catastrophique évidemment pour le continent africain. Mais n'oublions pas que derrière tout cela, il y a aussi une forme de racisme et de mépris pour le continent noir et une forme de suprémacisme blanc qui est omniprésent dans cette administration.
Je rappelle aux auditeurs l'édition spéciale à partir de 18h10 temps universel. Quelle place pour l'Afrique dans ce contexte 100 jours après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche? Ce sera à suivre évidemment avec Romain Ozoui et de nombreux invités. Il nous reste 4 minutes. Je sais que vous aviez peut-être des choses à dire sur le SID, Jérémy. Si vous pouvez le résumer en deux mots, je voudrais qu'on aborde un autre sujet après.
En un mot, gare aussi au retour de bâton pour les États-Unis. Cette aide, ça peut aussi fournir des signaux d'alerte en cas de pandémie. Ça peut aussi être un bâton dans les roues de l'effort contre le terrorisme aussi. Et donc là aussi, perspective peut-être un petit peu plus optimiste, c'est clairement décidé par l'administration Trump. Il y a des retours en arrière possibles compte tenu de ces retours de bâton qui pourraient heurter les intérêts stratégiques des États-Unis.
Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour Juan.
À Douala, au Cameroun, on vous écoute.
Quelles seront les conséquences à long terme des politiques économiques de Trump sur l'économie mondiale à la fin de son mandat? Seront-elles irréversibles?
Alors, quand vous parlez de politique économique, j'imagine que vous pensez aux droits de douane imposés par Trump, suspendus par lui-même. Ça ressemble à Trump, c'est-à-dire que d'abord, on agit, on menace, et ensuite, on rétropédale. Qui veut répondre? Jérémy Guez, allez-y.
Il y a un véritable risque de récession économique, souligné par le Fonds monétaire international. Il y a un véritable poids qui pèse sur l'Organisation mondiale du commerce qui est quasiment défunte. Il faut se souvenir qu'au sein de l'Organisation mondiale du commerce, il y a un mécanisme de résolution des disputes commerciales et que ce mécanisme ne marche plus parce que les juges pour la partie appel, n'ont pas été nommés.
Enfin, excusez-moi, l'OMC est inaudible.
Ah non, mais c'est ce que je veux dire.
On se demande encore si l'organisation existe.
Oui, mais je pense que c'est important de le noter parce que ça veut dire que finalement, ce système qui a été construit post-Deuxième Guerre mondiale ne reviendra plus. Et donc, ça va probablement être entre les mains des Européens de réinventer avec leurs alliés à eux un semblant de multilatéralisme.
Romuald Sioura, vous qui vivez aux États-Unis, comment voyez-vous les prochains mois? Un peu de projection? Les 18 mois qui nous séparent des élections de mi-mandat.
Écoutez, en quelques mots, je suis très inquiet, comme la plupart des observateurs aux États-Unis, quant aux élections législatives de novembre 2026. Je le disais au début de cette émission, aujourd'hui l'Amérique ressemble plus à la Hongrie de Viktor Orban qu'à l'Amérique de Kennedy ou d'Obama. Nous faisons face à un groupe d'ultra-droite structuré qui est enfin arrivé au pouvoir. Ces gens sont en train de tenter de mettre en place un régime semi-autoritaire.
Donc excusez-moi, vous êtes en train de nous dire que Trump organisera des élections de mi-mandat pour les gagner et qu'il fera tout pour les gagner.
Écoutez, nous sommes en train de parler de la personne qui a tenté le seul véritable coup d'État de l'histoire des États-Unis. Ne l'oublions pas, si Trump n'a pas réussi son coup, c'est uniquement parce que Mike Pence, l'ancien VP, vice-président, était là. Et aujourd'hui, c'est Jill Devent. Oui, ces gens vont tout faire pour contrôler un tant soit peu les élections de mi-mandat, j'en suis convaincu.
Merci à tous les deux de votre expertise. Romuald Sioura, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage aux éditions Armand Collin. L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. Jérémy Guez, à très vite. Votre ouvrage aux éditions VA, États-Unis, déclin improbable, rebond impossible. Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
La journée spéciale 100 jours de Trump se poursuit. Il sera question de la santé.
Oui, santé, rupture pour la santé des Américains comme comme celle au-delà des frontières des États-Unis. Coupes budgétaires tous azimuts, licenciement massif des employés fédéraux, réduction des effectifs du CDC, démantèlement de l'USAID, d'autres projets pour l'assurance santé des plus pauvres. On a nos invités avec nous, chercheurs épidémiologistes, spécialistes du système de santé américain.